Bonsoir à tous. Ça va bien? Pour une fois, je ne me suis pas trompé, je n'ai pas dit bonjour. Je vous invite à tourner dans notre texte de ce soir qu'on va regarder dans Philippiens chapitre 4. Le rouge, c'était peut-être pas la meilleure couleur. Le titre d'aujourd'hui, êtes-vous anxieux? Philippiens chapitre 4, et on lit à partir du verset 4 jusqu'à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On va prier. Oui, Seigneur Dieu, nous sommes faits pour t'adorer, pour trouver notre joie en toi. Il y a plein de choses dans nos vies qui font en sorte qu'on s'éloigne de toi et puis qu'on s'angoisse, on devient anxieux. Et nos pensées se tournent vers ces choses et on a tendance à t'oublier, Seigneur. Mais ce soir, amène-nous à toi et aide-nous à appliquer ce texte dans nos vies parce que c'est ce que tu désires pour nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, on veut être tes élèves. Amen. Êtes-vous anxieux? Commençons par quelques réflexions sur l'anxiété. L'anxiété est définie comme ceci. C'est un sentiment d'un danger imminent et indéterminé s'accompagnant d'un état de malaise, d'agitation, de désarroi et d'anéantissement. En gros, c'est prendre connaissance que je ne contrôle pas une situation ou un événement. Et la réponse à ça peut être la dépression, si ce n'est pas contrôlé. L'anxiété peut être bonne, mais peut être néfaste si elle n'est pas contrôlée. Et l'objet de notre anxiété peut être vraiment diverse. Alors, donnons un exemple. Vous terminez vos études et là, vous vous posez la question, vais-je trouver un emploi? Et est-ce que cet emploi va être assez payant pour que je puisse subvenir à mes besoins? Et tout d'un coup, vous trouvez cet emploi. Alors là, est-ce que je vais le conserver? Et puis là, si je le conserve, est-ce que je vais avoir assez d'augmentation de salaire? Parce que là, mon auto commence à être désuet. Et puis là, vous êtes capable de changer d'auto, puis elle va-tu être fiable? Puis après ça, vous pognez votre permanence, et puis là, vous vous dites, je vais-tu être capable de m'acheter une maison? Puis ma maison, est-ce que je vais avoir des problèmes? Et puis, si jamais la compagnie ferme, qu'est-ce qui va arriver? Et puis, il vient un temps où finalement, j'ai assez d'argent pour payer toutes mes factures, mais il reste encore cette vague impression que il peut arriver quelque chose. J'ai fini de payer mes factures, mais mon compte est entre 0 et 200 $. Mais tout va bien. Je ne suis pas endetté, j'ai payé mes factures. Mais là, il y a le dentiste, il y a la toiture. Il faut que je change mes pneus d'hiver. Et il semble que ça l'arrête jamais. Il y a toujours un événement ou quelque chose auquel mon anxiété peut augmenter. Et quoi de mieux qu'un vrai récit? La semaine passée, ou il y a deux semaines, je me fais annoncer par mon employeur que je ne suis pas payé pendant deux semaines dans pas très très long. Alors là, ça a gâché ma journée. Là, il va me manquer deux semaines de paye. Et puis là, mes pensées se focusent là-dessus. Fait que là, ma journée est gâchée. Là. Toute la journée, je pense à ça. Et puis là, en plus de ça, ma femme, ces semaines-là, est en vacances. Fait qu'elle aussi n'est pas payée. Là, on a deux salaires. Alors là, il faut qu'on paye le loyer, il faut qu'on paye l'épicerie, puis c'est dans le temps de Noël en plus. Alors, qu'est-ce que les pensées font? J'arrive sur l'heure du souper. Toute la journée, j'ai pensé à ça. Je dis ça à ma femme, je gâche sa soirée. Fait que là, elle pense à ça. Ça n'a pas de bon sens. Mais ce soir-là, je m'en allais prêcher dans une église. Et puis, il y a un texte qu'on va regarder un petit peu tantôt. Et puis, à un moment donné, il dit, faut que je change mes idées, il faut que je pense à d'autres choses. Je m'en vais prêcher tantôt. Alors là, je m'en vais prendre ma douche, puis là, je suis dans la douche, puis à un moment donné, les larmes commencent quasiment à me couler, puis je t'entends de me dire « beaux épais ». Le texte s'applique pour toi. On oublie Dieu. Et puis là, l'anxiété, bien ça, c'est un processus. Hein? Ça, c'est juste un événement là, qui gâche une journée. Là. Mais si le lendemain, il y en a un autre, puis le surlendemain, il y en a un autre, ou c'est un événement qui ne se règle jamais, puis que mes pensées se focusent là-dessus, on est fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bon, on se met à prier, et la moitié de mon problème, le lendemain, était réglé. Mais, toute ma journée, alors quel beau témoignage ce fut au travail. Il y a toujours des sujets de s'inquiéter, puis on s'inquiète tellement facilement. Et on doit avouer que si on prend la parole de Dieu, puis on regarde ce qu'elle dit par rapport à l'anxiété, beaucoup des fois qu'il parle de l'anxiété, pas très très loin, l'argent est présent. Et un des facteurs qui fait que l'argent est une source puissante d'anxiété, c'est sa composante qui est obsessive. Toujours plus, jamais assez. On travaille deux jobs, trois jobs. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Timothée, Paul est dit, l'amour de l'argent est la source de nombreux maux. Et dans notre contexte d'aujourd'hui financier, ben, on peut s'inquiéter pour beaucoup de choses. Combien de familles ici dans l'Église qui sont parties à cause du travail? On a au moins deux diacres avec nous, la famille, 10 personnes totales sont parties parce qu'à Trois-Rivières, dans leur métier, ils ont perdu leur emploi. Et puis là, ben là la roue commence. T'sais. L'anxiété arrive, puis vas-tu me trouver un autre emploi? Puis là, c'est à l'autre bout du Québec. Et là, ben, vais-je me trouver des amis là-bas? Vas-tu me trouver une église convenable? Vas-tu me trouver... Là, ça c'est parti. Là. Mais l'anxiété est dans beaucoup plus de domaines que simplement l'argent. Et il y a des textes bibliques où ce que le contexte, ce n'est pas nécessairement un contexte dans lequel l'argent est présent. Et aujourd'hui, notre texte, ça en est un. Ne vous inquiétez de rien. Et donc, on doit se poser une question. Qu'est-ce qui vous inquiète? C'est important de se poser la question puis d'identifier les sources d'inquiétude dans notre vie, nos sources d'anxiété. Une fois qu'on les a identifiés, bien, on doit se poser une question qui est nécessaire. Pourquoi? Pourquoi ces sources d'inquiétude? Pourquoi se tracasser pour ces choses? Pourquoi être conditionné et conditionner nos vies à cause de ces choses? Et comment répondre au pourquoi que ces choses nous tracassent? Une des façons de répondre à ça, et notre psychologie, c'est ce qu'elle fait, c'est qu'on peut prendre l'objet de notre inquiétude et on l'explique de cette façon. Par exemple, je m'inquiète parce que je ne sais pas si je vais être capable d'arriver à la fin du mois à payer toutes mes factures. Je m'inquiète parce que je me cherche une femme et je ne la trouve pas. Je m'inquiète parce que je ne sais pas si je vais me trouver un autre emploi. Je m'inquiète parce que mon emploi que j'ai trouvé, mettez ce que vous voulez. Et c'est le genre d'explication que la psychologie nous fournit. Qu'est-ce que l'arachnophobie? Personne qui a peur des araignées. Donc, on prend l'objet et on définit, dans le fond, ce qu'est une personne. Mais la Bible va plus loin que simplement décrire l'objet de notre inquiétude. Elle va beaucoup plus profond que ça. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est regarder la profondeur de, plutôt, essayer de plonger dans comment que la Bible aborde ces choses. Mais ce qui intéresse la Bible, c'est moins les circonstances ou les événements qui font qu'on devient anxieux, mais la Bible est beaucoup plus préoccupée par nous. Prenez des textes, par exemple, comme Luc 12. Encore un contexte d'inquiétude. Luc 12, 22, il nous dit, Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi que vous serez vêtus, car la vie est plus que la nourriture et le corps, plus que les vêtements. Considérez les corbeaux. » Et là, il y a tout un exposé sur l'inquiétude et des raisons de ne pas s'inquiéter, mais quand même, le texte termine par ce discours au verset 34, « Car là où est votre trésor sera aussi votre cœur. » Les situations, c'est une chose. Mais l'important, c'est notre cœur. Et la Bible, il y a plusieurs textes qui nous appellent à considérer notre cœur, à prendre garde à notre cœur. Prenez encore un autre texte dans Luc 21, toujours dans Luc, au verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Prenez garde à vous-même. Il va arriver des temps difficiles, et c'est dans un contexte de tribulation, et il va arriver ces temps difficiles, et ce qui va être à surveiller dans ces temps difficiles, c'est vous-même. Mais quand que je prends conscience que je ne peux pas contrôler ces événements, bien là, mon anxiété, bien, elle augmente. Mais ici, bien, il nous dit de prendre garde à notre cœur, parce qu'il y a des choses qui vont influencer notre cœur. Et ici, c'est mentionné le manger et le boire. Et les soucis de la vie. Qu'est-ce qui empêche un grand nombre de personnes de venir au Seigneur Jésus pour être sauvées? Jésus nous l'a dit dans des paroles un petit peu similaires dans Matthieu. Il nous dit, il nous donne la parabole des semences. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Mais les mêmes soucis de la vie, les mêmes plaisirs de la vie font partie des raisons communes qui fait qu'un grand nombre de chrétiens ne viennent pas à Jésus pour être sauvés ou pour rester enflammés pour le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'on s'inquiète à cause de nous-mêmes, non à cause des situations. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à ton cœur. Il est possible que je n'ai pas tout ce que je désire. La Bible attire l'attention sur notre cœur. Mais maintenant, regardons notre texte. J'aimerais considérer ma méthode aujourd'hui, elle va être assez simple. Si on va regarder une vue d'ensemble de ces trois versets qu'on a dans Philippiens, pour ensuite, et dans ça, je vais faire ressortir trois exhortations de Paul qui nous dit de se réjouir, d'être doux ou modéré, raisonnable, et de prier. Et enfin, on va faire ce qu'on appelle aujourd'hui de la théologie pratique. Et on va voir qu'est-ce que c'est. Premièrement, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. On est dans une section de cette lettre où Paul commence à faire des exhortations plus claires et directes. Et il vaut la peine de mentionner que le verset 4 n'a aucun lien grammatical avec le verset qui le précède. Et ici, la joie, c'est un signe d'un vrai chrétien. Qu'on trouve son parallèle au verset, chapitre 3, verset 1, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Mais Paul ici ajoute quelque chose. Il répète « Réjouissez-vous dans le Seigneur », mais en plus, c'est qu'il attire l'attention sur un mot, « toujours ». Où il veut souligner que cette joie qu'on doit avoir en tant que chrétien ne doit pas dépendre de ses circonstances. Mais dans un sens, l'adverbe « toujours » est au futur. Et on pourrait le comprendre comme un appel à regarder vers le futur et les événements qui vont venir et de ne pas s'inquiéter parce qu'on peut toujours avoir une place, un refuge vers qui se tourner en Jésus-Christ. Mais il est bon de se rappeler que quand Paul dit ces paroles, il est en prison. Et le récit de la prison est dans Actes 16. Paul, qui vient avec Silas pour prêcher à Philippe, c'est là, je crois, qu'il est lapidé, qu'il est battu, puis qu'on le jette en prison en attendant son procès. Et lui, il n'a pas encore la réponse. Et il écrit à cette église de Philippe, puis il dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Donc, Paul, en même temps, sert d'exemple d'une joie qui ne dépend pas des circonstances, parce que dans l'état où ski, il n'y a aucune raison d'être joyeux. C'est rare qu'on voit à la télévision un prisonnier qui s'en va en prison puis il va être condamné à vie. Yes! Condamné à vie. T'sais, on n'en voit pas de ça. Mais ce n'est pas ce genre de joie-là. Mais la clé de cette joie réside dans le terme « dans ». Dans le Seigneur. Le terme « dans », c'est l'élément qui gouverne l'exhortation de Paul à se réjouir. C'est-à-dire que le Seigneur est l'objet de notre joie, mais c'est aussi celui qui nourrit cette joie. Et ça nous parle de persévérance, de constance dans cette joie-là. Et j'ai une bonne citation que j'ai trouvée de Matthew Henry. Elle est un petit peu longue, mais elle vaut la peine. Elle résume pas mal le passage. « Toute notre joie doit culminer en Dieu, et toutes nos pensées à son sujet doivent être agréables. Fais de l'Éternel tes délices. Notez bien qu'il s'agit d'un devoir et non d'un privilège de se réjouir en Dieu, toujours, en tout temps, quelle que soit notre condition. » Même lorsque nous souffrons pour lui ou qu'il nous afflige, nous ne devons entretenir aucune opinion mauvaise à son sujet ou concernant ses voies à cause des épreuves endurées à son service. Dieu en lui-même est plus que suffisant pour nous fournir des sujets de joie malgré les pires circonstances vécues sur terre. Nous réjouir en Dieu est une obligation de grande portée dans la vie chrétienne et nous devons constamment le rappeler aux chrétiens. Deuxièmement, soyez doux. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça renforce la première idée de l'appel à la joie. La véritable joie chrétienne n'est pas repliée sur elle-même. Elle va sortir vers l'extérieur, dans l'Église, vers les autres. Elle doit éclater vers l'extérieur. Et il semble que cette joie est qualifiée par la douceur. Et un grand commentateur des Écritures, Lenski, nous dit ceci, c'est que l'équivalent de douceur, c'est la modération ou encore être raisonnable. Donc cette joie ne pousse pas vers des extrêmes. Elle démontre plutôt une modération, une joie qui est centrée sur Dieu, qui n'est pas dépendant de toutes ces circonstances-là, même quand tout semble s'effondrer. Et il ajoute ceci, « Le Seigneur est proche. » C'est des paroles intéressantes. Et en fait, ces paroles, c'est la raison de ma prédication d'aujourd'hui. Parce que je les trouve intrigantes. Le Seigneur est proche. Comment l'expliquer? Premièrement, ça pourrait vouloir dire « la venue du Seigneur est imminente » ou encore « le Seigneur vient bientôt ». C'est possible, en 3:20, par exemple, il nous dit « pour nous, notre cité est dans les cieux, de là nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ ». Donc, il y a une espèce d'attente, mais il y a d'autres explications. Peut-être que ça signifie que Dieu est à proximité de nous. Soit dans un sens géographique, il est proche de nous, ou dans un sens temporel. Et les deux peuvent être bonnes. Le contexte va déterminer comment on doit interpréter ça. F.F. Bruce, troisièmement, ajoute, cette expression est porteuse d'une autre signification, à savoir que le Seigneur se tient toujours aussi proche de son peuple. Il est continuellement à portée de main. J'aimerais vous donner quelques réflexions personnelles sur ça. J'ai 4 points que j'aimerais soulever et en même temps mettre éventuellement en lien avec l'anxiété. Premièrement, c'est une phrase de transition. Il y a la première exhortation à toujours se réjouir. La deuxième, que votre douceur soit connue. Et on s'en va vers la troisième où ce qui nous dit de ne pas s'inquiéter mais de faire connaître par des supplications, par des prières. Et l'alternative à l'inquiétude, c'est de venir dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est proche de nous. Et je peux venir justement parce qu'on n'a pas un Dieu lointain, mais on peut venir parce qu'il est proche de nous. Deuxièmement, c'est que malgré que le retour du Seigneur est mentionné, comme qu'on peut voir par exemple dans 2 passages dans Philippiens, 1:9, il nous dit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité et qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ. » Donc, c'est un appel à se préparer pour le retour de Christ, mais c'est en même temps une supplication, une intercession de Paul pour les croyants. Mais ensuite de ça, il change de sujet. Et notre deuxième texte, on l'a lu, c'est en 3:20, où ce qu'il nous dit que pour nous, notre cité est dans les cieux, et donc il nous parle de l'espérance. Mais au chapitre 3, verset 20, il fait un contraste avec les versets qui le précèdent, où ce qu'il nous parle au verset 18, qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Et leur espérance à ces personnes est seulement ici-bas sur terre. Mais nous, on espère en Jésus-Christ et on l'attend. Mais en même temps, le texte, il change. Et ici, ben, il n'y a pas de lien grammatical avec ce qui le précède. Et troisièmement, s'il y a une connexion à faire avec le chapitre 3, verset 20, le contexte nous montre qu'il y a une différence d'espérance entre le chrétien et le non-chrétien. On a notre espérance au ciel et eux sur terre. Et d'une certaine manière, l'espérance sur terre se fait connaître par notre joie qui est transmise dans une attitude de douceur. Et quatrièmement, donc, l'anxiété ne doit pas gouverner le croyant parce que les incroyants, eux, sont ici-bas sur terre et vivent pour les choses sur terre, mais pas nous. Dieu est proche de nous. On peut s'approcher de lui. On a un Dieu vivant qui ne change pas à travers les époques. Il est aussi proche de nous en 2011 qu'il l'était en 22 après Jésus-Christ. Ça ne change pas. Et on ne doit pas être gouverné par notre anxiété dans les choses du monde, mais plutôt d'aller se confier en Dieu. Et ensuite de ça, il y a cette transition au verset 6, où ce qu'il nous dit qu'on ne doit pas s'inquiéter, mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec action de grâce, faites connaître à Dieu toutes vos demandes. Et ce qui est marquant dans le verset 6, c'est qu'il y a trois termes différents pour parler de la prière, trois synonymes, avec des nuances à chacun. Mais en utilisant ces termes, Paul veut souligner et insister sur le fait que la vie de prière chez le chrétien n'est pas seulement indispensable, mais elle est essentielle. Et au verset 7, le résultat de cette prière, c'est que le Seigneur va travailler dans nos vies, va nous garder, va nous préserver, puis il va nous attirer à Christ. Et loin de Dieu, on ne peut pas comprendre cet amour. Trois exhortations, se réjouir, être doux, modéré ou raisonnable, et devenir à Dieu dans la prière. Maintenant, la théologie pratique. J'ai commencé à utiliser ce terme à la place de dire « application ». Pour deux raisons. La première, c'est que je fais un cours avec le Westminster Theological Seminary, et eux, à la place de dire « application », parce que la théologie, pour eux, doit toujours être pratique. Si la théologie n'est pas pratique dans nos vies, ça ne donne rien. Mais en même temps, ma deuxième raison, c'est que c'est Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, qui est un de mes modèles, il y a quelqu'un qui a dit de lui, « Les applications de Jonathan Edwards était toujours théologique. Mais sa théologie était toujours pratique. » Évidemment, je ne vais pas me comparer à Jonathan Edwards, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais mettons les blocs ensemble de tout ce qu'on a vu, fait un survol, et mettons ça pratiquement dans notre vie, en m'intéressant surtout à l'anxiété. Ne vous inquiétez de rien. Premièrement, on va regarder le combat contre l'anxiété, l'illusion que l'anxiété produit dans nos vies et le remède contre l'anxiété. Commençons par ce combat. L'anxiété est une émotion négative qui influence grandement nos vies, nos décisions et notre joie et même notre témoignage. Et l'anxiété est intimement liée à la dépression, si elle n'est pas contrôlée. L'anxiété poussée à l'extrême fait partie d'un trouble de l'humeur. J'ai amené le DSM-4, le manuel de psychiatrie qu'on utilise dans nos écoles de psychiatrie et de psychologie en Amérique et probablement même en Europe, je ne sais pas, il faudrait confirmer. Mais l'anxiété est problématique. Mais ça influence notre humeur. Et la Bible nous enseigne que la joie fait partie de notre identité chrétienne. Mais pas n'importe quelle source de joie. Pas une joie des plaisirs ici-bas, des joies égocentrées comme notre société. Mais en même temps, c'est véhiculé dans notre société et on est influencé par ça dans notre Église. Et regardez la belle citation que j'ai trouvée où ce qu'on essaie de nous décrire l'hédonisme, la recherche des plaisirs. Elle consiste à dire que ce que nous voulons véritablement et au fond, c'est le plaisir, le bien-être. Il est remarquable que, alors que nous nous trouvons dans des états physiques de plaisir, nous pouvons nous trouver en même temps dans une humeur générale dépressive. Et ça, c'était dans un livre, Robert Spayman, qui est un philosophe athée, là, qui rejette Dieu. Et le but du livre, c'était sur l'hédonisme et comment que la recherche des plaisirs doit influencer notre morale. Mais voyez-vous la contradiction qui est subtile ici dans le texte? C'est que les plaisirs, je les recherche physiquement, mais elles ne répondent pas toujours à notre besoin de notre santé mentale et de notre état spirituel ou notre santé de l'esprit. La source de joie dans ce cas-là est futile parce qu'elle est limitée à ce que je peux trouver sur terre. Mais on essaie de nous convaincre que c'est ça qui est le plus important. Puis eux-mêmes admettent que finalement, ben, ça peut ne pas changer notre état mental. Et là, il fallait que j'arrête la citation parce que ça continue trois pages, là. Mais en même temps, quand tous ces événements arrivent et toute cette recherche de plaisir, puis que je reste dépressif, ben ça laisse un goût amer, hein, tu sais, de toutes ces recherches de plaisir. Mais la Bible est plus profonde parce qu'elle pointe vers quelque chose qui est en nous. Elle veut notre cœur. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. Et quand tout autour de nous semble s'écrouler, que rien ne fonctionne, que l'anxiété monte dans le plafond, la Bible regarde notre cœur. Et c'est pour cela que dans le processus de l'anxiété du chapitre 4, le verset 7 termine comment? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. L'anxiété, c'est un combat dans notre esprit, dans notre tête. C'est un combat qui est réel. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Mais pourquoi toujours? Parce que l'anxiété est un processus envahissant, obsessif, subtil et omniprésent, peu importe les situations. Il y a toujours une façon par laquelle je peux devenir anxieux. N'importe comment. Que ce soit au travail, que ce soit en relation de couple, que ce soit dans votre ministère à l'Église, que ce soit avec vos enfants, il y a toujours quelque chose qui peut venir nous envahir nos pensées, et puis qu'on se couche le soir, et encore une fois, on regarde le plafond, puis on se dit, coudonc, ça finira jamais. Et si ce n'est pas contrôlé, ben on a un problème. Mais quand on est dans cet état d'anxiété, on ne peut pas être efficace pour le Seigneur. Et ça l'attaque directement notre joie. Et inévitablement, ça va attaquer notre vie spirituelle. Mais quand on est consumé par les circonstances et les événements qui se produisent dans notre vie, et que ça s'en vient au travail, et qu'est-ce qui fait, comment ça affecte notre travail et nos relations? Mais à place d'être transmis dans un esprit de douceur et de joie au monde, on est en train de dire que les circonstances et les événements sont beaucoup plus importants pour nous que l'obligation. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je suis en train de déclarer au monde que la joie de Dieu est moins importante. Et c'est mon cœur, c'est mes pensées qui produisent cette anxiété. J'ai sauté, sauté une couple de diapos. La Bible pointe vers quelque chose qui est en nous. Vos soucis et l'amour de votre propre personne sont les causes de votre anxiété. C'est pour ça que Jésus nous dit de prendre garde à nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on trouve des passages comme dans Luc où il dit « Prends garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. » Et il y a un proverbe qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. » La Bible s'intéresse à notre cœur. Un cœur appesanti ou une anxiété envahissante. Mais ça, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Tu sais, je ne me réveille pas là, un beau matin, je suis enflammé pour le Seigneur, là, je me regarde dans le miroir, ah, je suis appesanti. Ça, ça n'arrive pas comme ça. Là. Tu sais, je ne suis pas enflammé, puis tu sais, à un moment donné, ah, tu sais, j'ai une anxiété envahissante, dépressive. Tu sais, je ne suis pas... Non, c'est un processus. C'est un processus. Et quand je pense au processus de l'anxiété, je pense inévitablement, dans mon cas, à l'alcoolisme. Et en neuropsychologie, quand j'étudiais à l'université, je me rappelle mon professeur de neuro qui, lui, expliquait le processus de l'alcool dans le cerveau chez les alcooliques. Et pour résumer ça très simplement, bien, c'est que j'absorbe l'alcool, et là, mon cerveau, bien, m'en a, il y a un feeling, tu sais. Et là, bien, mon cerveau s'habitue. Alors, j'ai plus le même feeling après la même quantité. Alors, ça m'en prend un petit peu plus, fait que j'augmente la dose. Et là, ben, mon cerveau s'habitue. Alors là, il faut que j'en prenne encore un petit peu plus. Et dans tout ce processus, je perds l'habileté à arrêter ce comportement. Ce qu'il appelle l'inhibition. Arrêter un comportement. Et faites-le avec la drogue, faites-le avec la boisson, faites-le avec le sexe, faites-le avec ce que vous voulez, avec l'anxiété, mais c'est un processus dans lequel je perds l'habileté de m'approcher de Dieu. Et ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ou si ça arrive du jour au lendemain à cause d'un événement qui arrive dans notre vie, c'est parce que je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt à faire face à ça. C'est un véritable combat qui se trouve dans notre cœur. On a un combat contre l'anxiété, contre le péché, le doute, la dépression, l'amertume, la colère, et la liste continue. C'est un combat. Et ici, l'appel, l'ordre de se réjouir, c'est une déclaration de guerre. C'est ça que c'est. C'est un combat dans lequel notre joie est en jeu et notre témoignage est en jeu. Et souvent, le remède à l'anxiété est très, très simple. Mets-toi un sourire dans la face. Non, mais c'est vrai. Combien de personnes, à un moment donné, faut que tu y dises, là, tu sais, tu le croises sur le bord de la rue, là, mais... Lui, il est chrétien. Hey, lui, il vient à mon église. Ben, oui, il a de l'air content. Hein? Et combien de fois je l'ai entendu, ça? Dans mon cas, ben, je pense à plein d'autres choses. Et souvent, ben, je dois me rendre compte que je suis comme ça. J'ai une tendance, moi-même, à l'anxiété puis à la dépression. Puis des fois, il faut que je me le dise, je me regarde dans le miroir puis je ris de moi. Mais c'est ça, tu sais, cultiver une vie de sourire, c'est une marque de la joie. La joie, ce qui suit quand tu es joyeux, là, ben, c'est un sourire d'en face. Et si on poserait la question à votre employeur, qu'est-ce qui caractérise votre personne? Est-ce que la joie serait dans votre top 10? Je ne sais pas. Ou c'est les circonstances qui vous envahissent. Mais deuxièmement, l'illusion de l'anxiété. Le Seigneur est proche. Et pourtant, on doit admettre qu'un chrétien, que nous, en tant que chrétiens, on ne vit pas en constance, tu sais, joie dans le Seigneur, toujours, tout le temps, de façon invariable. S'il y en a qui sont comme ça, dites-moi-le, puis donnez-moi votre truc. Mais on doit avouer que la proximité de Dieu, là, c'est des choses, des fois, qui viennent au deuxième plan dans notre vie. Pourquoi? Quand que Dieu semble absent, notre foi est mise à l'épreuve. Mais sa présence, c'est beaucoup plus que le sentiment de sentir Dieu qui est présent. C'est plus que ça. Lui, il ne change pas. Nous, on change. Nous, on a des émotions comme ça. Lui, il ne change pas. Et quand Dieu semble absent, et que notre anxiété dans les choses ici-bas nous envahissent, les soucis de la vie et les plaisirs du monde nous prennent la place dans nos pensées, on cherche un refuge. On cherche un refuge. Alors là, allez-y, là. Télévision? Il y en a qui vont se noyer dans la télévision. Drogue, alcool, tout le reste. Et là, on fait la liste. À cette heure, il y en a des nouveaux refuges. Facebook, Twitter. Psychologue, drogue, alcool. Ah, là, il faut que je travaille encore plus. Je vais me concentrer encore plus sur ma famille. Je vais me renfermer sur moi-même. De toute façon, personne ne me comprend. Ou encore, là, c'est les plaisirs à fond. Là, il faut que je vive au bout. Je me lance dans un sport extrême. On est fait pour trouver des refuges. On va se trouver des refuges. Et trop souvent, nous, en tant que chrétiens, on vit comme des athées. On vit comme si Dieu n'existait pas. Et ça, c'est le plus triste dans tout ça. Est-ce que vous vivez comme des athées? Ah oui, Dieu est vivant, tu sais, puis là, ça, c'est beau, là, c'est des belles phrases, là. Mais dans la vie quotidienne de tous les jours, là, et c'est ça qui m'a fait allumer là, dans mon anxiété envahissante là, que j'avais, là. Le Seigneur est proche. Dieu, il est proche de nous. Il est prêt à déverser sa grâce. Mais moi, je suis entêté dans mes affaires. Je vis comme s'il n'était pas là. Parce que mes problèmes sont tellement importants. Et ça, ça m'arrive. Mais nous, on est créés pour trouver des refuges. On a un refuge qui est inébranlable en Jésus-Christ. L'anxiété, les inquiétudes et les angoisses supposent que je suis capable de contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Et quand on est anxieux, c'est que je suis en train de me dire que je serais capable de contrôler la situation, mais là, il y a quelque chose qui m'échappe. Là. Et là, quand je commence à réaliser là, que c'est en train de m'échapper, là, mon anxiété elle monte. Ça, c'est comme mon chien, hein, tu sais, mais je me suis fait dire que l'anxiété de mon chien augmentait quand il me voyait. Là. C'est qu'il y a quelque chose qu'il n'est pas capable de contrôler. Là. Hey, pisse pas là, paf! T'in! Ben c'est ça, tu sais, là, en tout cas. Mais le point capital dans tout ça, c'est que. Pas pour le chier, là, mais. Et mon point capital dans tout ça, c'est quand que j'ai le sentiment que je suis capable de tout contrôler, mais ça, c'est une illusion. Quelle illusion? Celle de se suffire en soi-même. Qu'est-ce que les personnes font quand ils vivent sans Dieu? Je suis capable de réagir, je suis capable de faire face à ça. Moi, Dieu, je n'ai pas de besoin. On se le fait dire. Et d'ailleurs, Paul, il sait, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On n'est pas capable de concevoir la paix de Dieu à s'approcher de lui par la prière. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu vis sous une illusion, tu crois en Dieu qui n'existe pas. D'ailleurs, le livre le plus populaire chez les athées là, actuellement, là, c'est « L'illusion de Dieu » de Richard Dawkins. Dieu est une illusion. C'est ça les nouveaux arguments qu'on voit aujourd'hui. C'est une illusion, Dieu n'existe pas. Mais l'illusion, c'est au contraire, c'est que toi, tu penses que tu es capable de te souffrir en toi-même, mais en réalité, c'est pas vrai. Et là, l'anxiété elle monte. Quand il arrive un événement qui met en évidence que finalement, je ne peux pas me souffrir en moi-même. Alors là, on cherche un refuge. Et il s'en donne plein de religions, de sectes. On se lance dans toutes sortes d'affaires. Et c'est quoi votre refuge? Et quel est le remède? Il veut que nous dirigions notre anxiété et nos soucis par la prière. J'ai mentionné que dans ce texte, il y a trois termes pour parler de la prière. Premièrement, la prière. C'est un terme général qui désigne une prière adressée à Dieu. Ça veut dire rendre un culte ou encore une adoration. On vient dans la présence du Seigneur. Je reconnais qu'il est proche de moi et que je peux lui demander des choses. Et donc, je reconnais sa proximité. Le Seigneur est proche. Et c'est pour ça que c'est connecté avec la prière. Et le deuxième terme, c'est les supplications. Et ce terme attire notre attention sur l'intercession pour les autres, les supplications dans la prière. Je pense aux autres, et on a un exemple à même Philippiens, on l'a lu tantôt. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus. Je prie pour les autres, je pense pour les autres, j'intercède pour les autres. Et si on veut qu'on apprendre à prier dans la Bible, et on prend les prières de Paul et de Jésus, et qu'on veut apprendre à prier et qu'on les étudie, on va rapidement considérer qu'il faut prendre la peine de prier pour les autres. Pas la médisance, là, prier pour les autres. Alors, Don Carson nous dit ceci. Cela implique deux attitudes de notre part. Premièrement, nous devons toujours nous soumettre à ce que Dieu déclare de meilleur. L'étude des prières dans l'Écriture est essentielle à cet égard. Car quel autre moyen avons-nous de connaître la pensée de Dieu? Nous devons toujours nous soumettre à ce que Dieu déclare de meilleur. Et notre texte d'aujourd'hui déclare que Dieu est le meilleur. Carson continue. De même que l'Écriture doit façonner nos convictions, nos relations avec les autres, nos valeurs fondamentales, elle doit aussi inspirer nos prières. Deuxièmement, prier pour les autres exige que nous nous examinions, que nous examinions notre propre cœur. Et Paul veut faire attention à quoi ici? À notre cœur. Vous avez une anxiété envahissante ou une propension rapide à l'anxiété comme moi, et souvent je dois confesser que je n'ai pas mon réflexe premier de virer en prière, mais de résoudre mes propres problèmes. Le troisième terme, c'est des actions de grâce. Désigne la chose demandée. Martin Lloyd-Jones résume comme ceci. Ayant adoré Dieu parce que Dieu est Dieu, après avoir offert ce culte en général et l'adoration, nous arrivons maintenant au particulier et l'apôtre ici nous encourage à faire nos supplications et nos demandes. Faites vos demandes. Il veut que nous dirigeons notre anxiété et nos soucis dans la prière. Et si votre vie de prière est limitée à la prière que vous faites dans l'Église, parce que ce n'est pas de ça que ça parle, là, ou si votre vie de prière est seulement ce que vous faites avant de prier, avant les repos, là, ça ne va pas bien. Là. Non, il parle de d'intercéder pour les autres, d'approcher dans une attitude d'adoration, de prendre un temps à part, de faire en sorte qu'on... Vous êtes anxieux à cause de votre auto, dites-y à Dieu, Seigneur, il sait, mais il est prêt à répondre. Et il veut qu'on dirige vers la prière, mais pourquoi? Pour au moins deux raisons. Premièrement, parce que le Seigneur est proche. Il est prêt à déverser sa grâce pour nous. Il veut manifester sa grâce pour nous. Il veut être proche puis répondre à ça. Mais il veut notre cœur. Il veut qu'on s'approche de lui. Il tient ta main puis il ne lâche pas. Toi, c'est parce que souvent on regarde ailleurs. Mais lui, il n'a pas lâché la main. Mais toi, tu veux aller de l'autre côté, mais lui, il veut te ramener. Mais deuxièmement, il veut qu'on dirige notre anxiété dans la prière. Parce qu'il veut qu'on s'attende à lui. Vous voyez, je réalisais quand j'étais dans ma douche, je réalisais que je ne suis pas en train d'attendre que Dieu manifeste sa grâce. Je n'observe pas la grâce de Dieu dans ma vie. Je n'observe pas tous ces gestes d'amour que Dieu fait dans ma vie. Je suis en train de m'éloigner. Ouais, subtilement, ça c'est juste un événement, mais tu sais, puis là maintenant on réalise notre propension à quel point que c'est facile. Mais dans toutes ces choses, il n'est pas en train de dire que la prière va changer quelque chose, que la prière que je vais faire va faire en sorte que ça va produire quelque chose. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, par la prière, les supplications et des actions de grâce faites, connaître à Dieu. Et Dieu va faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il est proche, prêt à intercéder. Il est vivant. On a un Dieu qui ne change pas. Et qu'est-ce qu'il veut nous donner? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Comment est-ce que la paix travaille? Qu'est-ce qu'il veut dire dans ce bout de phrase? Il est en train de nous dire que la paix de Dieu travaille en nous présentant le Seigneur Jésus-Christ et en nous attirant à lui. La paix de Dieu qui est produite dans les temps d'anxiété qu'on ne peut pas comprendre, qui dépasse notre intelligence. On ne peut pas la prévoir. Cette paix nous attire à lui. Êtes-vous prêt à être émerveillé par la grâce de Dieu dans notre vie? Seigneur, surprends-moi. Je ne sais pas comment que ma paie va rentrer. Je ne sais pas. Tu me dis que je vais manquer de rien. Je ne sais pas comment que ça va arriver, mais surprends-moi. Je veux t'écouter. Et je suis sorti de la douche ce jour-là. Ça s'est fait tout dans la douche. Et j'étais prêt à aller prêcher parce que le Seigneur va agir d'une façon surprenante. Mais êtes-vous prêt à être émerveillé par la grâce, même dans les temps difficiles? Vous avez perdu l'émerveillement à cause des soucis, les besoins ou toutes les autres choses qui vous tracassent. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est que la gloire de l'Évangile que je suis en train de me présenter aujourd'hui, c'est justement que l'Évangile ne se préoccupe pas de notre situation, mais qu'elle se préoccupe de nous. L'Évangile, c'est pour vous. Ce n'est pas pour les situations. Si c'est juste l'Évangile pour appliquer à des situations, ça ne change pas grand-chose parce qu'il va en arriver d'autres situations. Le Seigneur veut notre cœur. Et ça, c'est la gloire de l'Évangile dans notre vie. Jonathan Edwards a dit ceci, je termine avec ça. Un homme agit toujours à un moment donné conformément à ce qu'il désire le plus à ce moment donné. Un homme agit toujours à un moment donné conformément à ce qu'il désire le plus à ce moment donné. Et si à ce moment, et là c'est moi qui continue, et si à ce moment donné, je désirais Dieu, je désirais être émerveillé et être surpris par sa grâce. Parce que dans le fond, il n'y a pas une journée où vous allez être tellement pire que Dieu ne manifestera pas sa grâce. Et il n'y a pas une journée où ce que vous allez être tellement bon que vous allez mériter qu'il prenne soin de vous. Non, vous allez avoir encore besoin de sa grâce. Mais, et si à ce moment donné, on était encore émerveillé par Dieu? Relisons le texte et approchons le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On va prier. Oui, Seigneur, on veut vraiment te dire merci, parce que tu nous offres cette paix et tu veux nous la donner. Et notre espérance un jour, c'est de te voir face à face et on va être éternellement dans cette paix. Et on a seulement un avant-goût, Seigneur, ici-bas sur cette terre. Mais on veut la désirer. Et on vit tous des temps d'anxiété. Et ma prière, c'est que tous et chacun ici, on puisse désirer ta grâce. Désirer te voir agir. Désirer te donner nos cœurs afin d'être transformés. Seigneur, prends mon propre cœur, Seigneur, moi le premier, et transforme-le à ton image, Seigneur. Je te demandais que je puisse avoir un amour qui se manifeste, qui éclate dans l'Église, qui éclate dans le monde, que je puisse être caractérisé par cette paix, par cet amour, par cet Évangile dans ma vie qui est glorieux. Et je veux te prier pour la même chose pour chacun de nous. On veut te donner la clé de notre cœur, Seigneur. Enlève les frontières, Seigneur, de tous nos refuges qu'on peut trouver, Seigneur. Toi seul est le vrai refuge. Attire-nous à toi, Seigneur. Amen.